Nous avons commencé avec l'Argentin de Paris, Julio Cortázar, donc sur ce débat sur le Paris argentin. Et cette fois-ci, nous allons parler essentiellement avec des Argentins. Michel Gazier reste avec nous. Et notamment, je l'ai souhaité parce que je voudrais qu'on évoque à un moment ou à un autre la personnalité, alors pas seulement avec vous, Michel, mais avec vous aussi, d'Hector Bianchotti, auquel je suis personnellement très attaché, ayant travaillé plusieurs années avec lui au Monde. Bon, là, en ce moment, il est fatigué, donc malheureusement, il ne peut pas être avec nous, mais je pense que c'est difficile de faire un débat sur, aujourd'hui sur le Paris des Argentins sans évoquer Hector Bianchotti. Donc, nous allons revenir sur des questions que nous avons amorcées avec le premier débat. Comment expliquer ces allers-retours entre la France et l'Argentine, cette présence si forte et si vivante des Argentins à Paris et qui se maintient aujourd'hui? Pourquoi la France? Pourquoi Paris? Quelle est la nature de ce lien entre ces deux pays, ces deux villes, ces deux cultures? En quoi la culture française, et la langue en particulier, influence-t-elle l'œuvre des écrivains argentins installés à Paris? Après de longues années passées en France, les Argentins de Paris se sentent-ils toujours des exilés? Donc, nous allons retrouver des questions que nous nous sommes posées à propos de Julio Cortázar. Alors, pour évoquer toutes ces questions, nous allons parler avec Alicia Durovne-Ortiz, qui fut longtemps journaliste à Buenos Aires, qui est installée en France depuis 1978, c'est ça? Donc, oui. Ça fait maintenant un certain nombre d'années. Oui. Romancière, biographe, notamment d'Eva Perón ou de Maradona. Et vous écrivez également des livres pour la jeunesse. Et on en parlera sûrement parce que vous écrivez d'une manière générale en espagnol, mais si je ne m'abuse, vous écrivez vos textes pour la jeunesse en français.
Et non seulement, mon livre sur Eva Perón, je l'ai écrit en français, je l'ai traduit moi-même en espagnol. Et ce qui montre un peu la folie de ces allers-retours, ma biographie de Dora Maar, où je parle de surréaliste, etc., je l'ai écrite en espagnol.
Voilà, donc ça sera très intéressant d'explorer ouais. Tout ça. À côté de vous, à votre gauche, il y a Eduardo Berti, qui est critique littéraire, qui est traducteur, qui est nouvelliste, qui est romancier, sort d'ailleurs, est sorti en cette rentrée 2005, et Michel Gazier d'ailleurs en a parlé dans Télérama, un très beau roman chez Actes Sud, Tous les funesses. Et vous, Eduardo, vous vivez à Paris depuis 1998, c'est ça?
C'est ça, oui. Ouais. Oui, monsieur.
Alors, je ne représente pas Michel Gazier, donc, qui était là, voilà, donc, et qui me fait l'amitié de rester avec moi sur ce deuxième plateau. Et puis, juste à côté de moi, je retrouve avec plaisir, puisque nous nous sommes déjà croisés dans d'autres débats, José Muñoz, qui est dessinateur de bande dessinée, avec son complice Carlos Sampaio, qui est son scénariste, son ami, qui est argentin lui aussi, mais qui lui est installé à Barcelone, alors que José Muñoz a choisi de s'installer à Paris. Ça aussi, ce sera sans doute une question.
Il y a 5 ans.
5 ans. Mais vous avez quitté l'Argentine en 1972. Donc, on va en parler. Il y a eu tout un périple avant l'arrivée à Paris. Et puis, on évoquera donc Hector Bianchotti, qui lui est né à Cordoba, dans une famille d'origine piémontaise et qui est arrivé à Paris en 1961. Et il a eu le parcours que l'on sait, parcours de critique, parcours d'éditeur, parcours d'écrivain, qui s'est mis en 1985 à écrire en français et qui aujourd'hui est membre, enfin a été élu à l'Académie française en 1996. Un parcours assez extraordinaire. Alors, la première question que je voudrais évoquer à travers différentes sous-questions, c'est le lien entre la France et l'Argentine. Et donc, à travers, peut-être, si vous acceptiez chacun de nous raconter, de témoigner sur votre parcours, de nous dire pourquoi vous avez choisi la France et quel lien vous voyez. Est-ce que c'est un lien entre la France et l'Argentine, ou entre Paris et l'Argentine, ou encore plus précisément, un lien entre Paris et Buenos Aires? Alors, Alicia, puisque vous avez commencé, si vous voulez bien continuer.
Oui, je crois que le lien est plutôt entre Paris et Buenos Aires. Du fait qu'il s'agit de deux villes qui partagent une nature particulière. Ce sont des villes mythiques. On ne dirait jamais, par exemple, le Paris des Portugais ou le Madrid des Argentins. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les mêmes raisons n'animent pas l'immigration vers une ville ou une autre. Les Argentins qui sont venus ici depuis le 19e siècle viennent parce que Paris représente un rêve. Je suis moi-même ici parce que ma mère était écrivain et elle a tenu à ce que j'apprenne le français parce qu'on ne pouvait pas être un être cultivé ou un être tout court sans connaître le français. Ça, c'était sa génération. Les choses ont changé, mais ma génération voyait encore le cinéma français, lisait encore en français. Donc, je suis l'expression, l'exemple de cette... De ce lien avec un rêve, avec un mythe, et qui n'est pas du tout un lien de sang. Nous n'avons pas un lien de sang en général, les Argentins avec la France, avec Paris, comme nous avons un lien de sang avec l'Espagne ou l'Italie. Nous avons un lien d'encre, c'est-à-dire ce qui coule dans nos veines par rapport à Paris, c'est de l'encre. Nous sommes les fils littéraires de la France, de Paris, et je crois que je disais au début que Paris représente pour nous les mythes. Pourquoi précisément les Argentins sont tellement attirés vers Paris? Parce que nous avons réussi, nous aussi, Dieu sait comment, à fonder, à créer une ville mythique. Je ne peux pas expliquer à quoi ça tient qu'une ville soit mythique. Ce n'est pas à cause de sa beauté, certainement pas dans le cas de Buenos Aires, ni à cause de son histoire. Paris est une très belle ville avec une merveilleuse histoire, mais il y a des villes très belles aussi qui ne représentent pas ce rêve-là, qui ne sont pas des villes mythiques. Buenos Aires a réfléchi sur elle-même, a chanté sur elle-même, s'est regardée elle-même avec perplexité pour essayer de comprendre qui elle est. Et de par là, elle est devenue une ville mythique. Et il y a ce lien entre les deux qui est en même temps l'encre et le rêve de la littérature.
Et quand vous dites que Paris est une ville mythique, qu'est-ce que vous pouvez mettre derrière? Quelle piste vous pouvez nous donner pour que nous puissions comprendre en quoi Paris est une ville mythique, en quoi Buenos Aires est une ville mythique?
Paris est une ville mythique parce qu'elle représente pour le monde entier le prestige de du raffinement, de la littérature surtout. Mais il faut dire que quand je dis mythique, on pourrait imaginer qu'il y a un manque de réalité dans ce mythe. La chose la plus émouvante pour moi à Paris a été depuis le début l'énorme respect des gens pour la littérature. Et c'est quelque chose d'absolument réel et très émouvant, et qui en plus s'exprime d'une manière pratique, fantastique. Je suis arrivée sans savoir de quoi j'allais vivre et j'ai dû faire face à un policier, à un flic qui me regardait d'un air un peu « bon, qu'est-ce qu'elle vient faire ici ?» Et j'ai vu, et c'était la première fois que je voyais ça, mais je l'ai vu mille fois, le regard du flic s'illuminer quand je lui ai dit que j'étais écrivain. Et là, j'ai vu qu'effectivement, c'est le pays de la littérature. Et heureusement pour moi, j'ai réussi à passer ce message devant des employés des banques. Je crois qu'on a vraiment vécu, qu'on s'est nourri de ce mythe-là.
Eduardo Berti, vous sur ces questions, qu'est-ce que d'abord sur ce rapport entre Paris, Buenos Aires ou France, Argentine, etc. Puis vous, dans quelles conditions êtes-vous venu en France et pourquoi?
Je suis d'accord avec Alicia qu'il y a un très fort lien entre Paris et Buenos Aires. Je crois quand même qu'il y a aussi un lien entre l'Argentine et la France, et spécialement, je sens qu'il y a aussi un lien très fort entre Montevideo et Buenos Aires, très très fort. Même si un ami uruguayen dit tout le temps qu'un Uruguayen, c'est un Argentin qui ne rêve pas d'aller vivre à Paris. Mais ça, c'est une blague. Ouais. Et alors, quand vous parliez tout récemment à propos de la nouvelle de Cortázar, du pont, du double jeu, pour ainsi dire, je pensais une chose que... Depuis que je suis enfant, j'ai toujours écouté dire, pas tout le monde dit ça, mais disons la classe moyenne en Argentine, mes tantes par exemple, qui sont pour moi un symbole des professeurs universitaires, classe moyenne. Et quand on parlait d'Europe, quand elle parlait d'Europe, elle disait là-bas, Aja. Et quand pour dire Aja, ça veut dire qu'il y a une distance, mais en même temps qu'il y a une sensation d'appartenance. Alors, il y a une phrase de Tolstoï que j'adore. Il dit dans un roman, je ne me rappelle pas lequel, que toute maison parfaite est une maison où il manque forcément toujours une pièce. Non et il y a une phrase aussi de Bioy Casares où il dit qu'écrire, c'est ajouter une pièce à la maison. Et alors moi, je savais depuis, je ne sais pas, depuis que j'avais 20 ans, que je voulais faire l'expérience de vivre ailleurs. Au moins 5 ans, 3 ans, on ne peut pas planifier comme ça, mais quelques temps. Et pour ajouter une pièce, disons, à ma maison, pour avoir une chambre de plus chez moi. Et je savais que ça allait sûrement se passer là-bas, c'est-à-dire ici. Mais je ne savais pas vraiment où. Et alors, avant de prendre la décision, qui n'était pas une décision banale et facile, parce que j'avais ma vie à Buenos Aires, etc., mes livres à Buenos Aires, pour un écrivain, chaque déplacement, c'est très compliqué avec les livres. On parlait de ça avec Elsa Osorio, c'est terrible ça. Et alors, j'ai fait quelques voyages comme touriste, pour ainsi dire. Et dans un de ces voyages, j'arrive à Paris. Et là, j'ai vu que la chambre, elle existait déjà, que la chambre était Paris. Et c'est facile à expliquer pourquoi. Mon père, il était né en Roumanie, mais très très jeune, il est venu en France. Il a passé beaucoup de temps à Paris avant de quitter la France pour fuir de la guerre. Mon père j'étais fils d'un homme de 50 ans. Il y avait une différence d'âge très importante. Alors, il est parti parce que la guerre, voilà. Mais Paris était... Il y avait bien sûr le mythe littéraire de Paris. Il y avait aussi bien sûr le mythe lié à la culture du tango, très fort en Argentine, lié à Paris. Mais en plus, il y avait le mythe de Paris de mon père. Chez moi, il y avait dans la chambre où mon père... Bon, c'est le moment des chambres. Bon. Et mon père avait une chambre où il travaillait. Et là, il avait un plan de Paris. Alors, quand je suis arrivé à Paris, je sentis que je connaissais déjà cette ville, que c'était peut-être seulement que ça changeait, qu'on ajoutait une dimension de plus. Mais la ville, je la connaissais. Je bougeais dans une ville que, au moins cartographiquement, je connaissais déjà. Voilà. Et je suis venu, pour finir, pour être pas très, très long, je suis venu avec ma femme. Ma femme est fille d'une prof de français, d'une famille très francophone. Et on était ici, je ne sais pas, mais on était depuis 3-4 mois. Et un jour, elle me raconte que dans la chambre de travail de sa mère, il y avait un plan de Paris. C'est la seule personne d'Argentine que je connais où il y avait aussi un plan de Paris. C'est incroyable.
Ouais. Et vous vivez à Paris ?
J'habite à Paris depuis 1998, ouais. Même si ces derniers temps, disons ces derniers 10 mois, j'ai fait des allers-retours plus prolongés qu'avant. Oui. Ouais, oui.
Alors, José Muñoz, vous avez commencé à nous dire qu'en fait, il y a eu un long parcours entre l'Argentine et Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, je suis parti... pour l'Europe, comme on dit là-bas, et pour curiosité généralisée autour de la maison des ancêtres, de mes familles d'origine andalousienne et canarienne, ça c'est de région de l'Espagne, mon métier de dessinateur, j'aime beaucoup, je me suis dédié fortement à la bande dessinée, alors je savais qu'il était des possibilités ici, dans la France et dans l'Italie, aussi pour mon métier. Alors, en situation dans laquelle, à ce moment, on voyait l'Argentine tomber dans une tempête, comme on dit, dans l'obscurité de règlement de compte, qu'on a mentionné dans les conversations antérieures, l'histoire de notre pays comme un conflit criminel interrompu et repris au pas des générations. Je suis fruit de la deuxième génération argentine, de ces migrants qui ont échappé à l'Europe de la famine, de la guerre. J'avais vécu dans mon pays avec beaucoup de plaisir. Je suis parti aux 30 ans et je suis arrivé à l'Angleterre du moment de la fin du hippisme au commencement des années 70. Et ça a été mon premier impact, qu'on peut dire, européen longtemps. J'habitais à Londres, dans les pays qu'on connaissait, l'empire sans pitié qui est réglé avec le libéralisme forcené, la situation de notre pays dans l'Amérique du Sud, mais aussi au même moment la beauté de l'illusion hippie nuancée avec des socialismes d'amour, de compréhension envers les autres. Ça, c'est ma première impression forte de l'Europe. Après, je suis passé aussi, pour la fortune de mon travail, à vivre pendant presque 25 années dans le nord de l'Italie, à Milan et dans les alentours, dans lesquels j'avais trouvé aussi la possibilité de placer mon travail dans des endroits respectueux et cultivés. Et à moitié des années 70, dans les mêmes moments que nous avons commencé à publier notre Alaxinère avec Sampaio, dans l'Italie, il était pris aussi pour ce groupe d'édition du Square, de Charlie Mensuel, Volinsky, Cavana et toute la famille, comme on dit. J'avais débuté dans la France réelle, je suis été parachuté au milieu d'un fait millénaire d'ingénie et de folie arbitraire, on peut dire, en certains cas. C'était mon première impression physique de lumière et d'ingénie et de respect du travail culturel, sous-culturel, de travail beau et de travail... Comment on peut dire, ce qu'on peut appeler la culture. Ça m'a beaucoup touché. Et je dois dire aussi que mon chemin à l'envers la France rêvée dans ma ville de Buenos Aires, ça a été plutôt un chemin en fil de lumière, en fil de cinématographique, dans lequel dans la fumée de notre cinéma, nous avons vu naître tous les parcours de la nouvelle vague, tous les anciens maîtres après que j'avais connu du cinéma français des années 20, 30, 40. Mon amour envers la France, ça a été né plutôt pour les versants de la lumière et de l'ombre et des mots, de façon cinématographique. Et aussi, je dois dire, aussi impressionné pour l'histoire de ce peuple qui ne se résigne pas à être humilié.
Alors, il y a la question évidemment très, très importante de la langue. On en a déjà dit un mot, j'aimerais bien qu'on approfondisse un peu cette question, peut-être en commençant avec vous, Alicia, puisqu'effectivement, vous écrivez tantôt en espagnol, tantôt en français. Comment s'est passé le passage à l'écriture en français? Et aujourd'hui, comment est-ce que vous décidez d'écrire tel texte en espagnol, tel autre en français? Où vous en êtes de ce passage d'une langue à l'autre?
Bon, il faut dire que le mot passage convient parfaitement, puisque je me suis toujours sentie en Argentine quelqu'un qui a une double identité, à moitié juif par mon père, à moitié vieille famille argentine par ma mère. Et s'il n'y avait pas de carte de Paris à la maison, c'était tout comme, c'était aussi là-bas tout le temps. Mon père parce que c'était presque un Européen, et ma mère parce qu'elle était écrivain et qu'elle connaissait le français. Donc je suis un être de passage, je suis entre les deux. Je ne me suis jamais sentie en Argentine complètement argentine, ça c'est très argentin de toute façon. Et donc en arrivant ici, je continuais avec cette... Bon, étant donné que j'écrivais déjà un peu, je le parlais très bien, mais je pensais pouvoir commencer à écrire, ça a été assez naturel. Et le fait d'ajouter une autre pièce à la maison. Mais par rapport à ça, maintenant, je fais aussi l'aller-retour avec l'Argentine. Je préfère, si on me laisse choisir, écrire en espagnol parce que c'est une langue qui, avec laquelle j'ai un rapport viscéral et parce que je m'amuse beaucoup plus en espagnol. En français, je suis très sérieuse, je suis beaucoup plus carrée, plus rationnelle. C'est assez lisible, mais je préfère jouer avec les mots et m'écoute de jouer avec les mots en français. La pièce, alors oui, on ajoute une autre pièce, mais ce n'est pas fini. Pour continuer avec les citations des pièces et des maisons, il y a cette phrase qui semble résumer ma vie, c'est Bachelard, quand il dit il ne faut jamais trouver la maison finale parallèle de la maison natale. Il faut toujours aspirer à cette maison, mais ne jamais la trouver complètement, parce que la maison finale est déjà la mort. Donc, je suis entre les deux, je suis entre les deux langues, entre les deux pays. Je n'ai pas fini de composer ma maison, Dieu merci.
Si vous deviez définir le français, le caractériser en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? La langue française, oui. Qu'est-ce que vous diriez de la langue française ? Vous la voyez comment ? Vous la définissez comment ?
Je ne sais pas si je peux faire une théorie de ce que c'est que la langue française. Et comment les écrivains français réussissent à être soyeux, élégants, avec cette rigueur logique de la langue ? Et ça a été pour moi tellement dur au début de constater que quand j'ai coupé les liens logiques en espagnol, mes traducteurs ou mes correcteurs, quand j'essayais d'écrire en français, remettaient tous les liens logiques. Et donc, pour moi, la difficulté était de rentrer dans le français. J'avais l'impression que l'espagnol est plus dodu et plus excessif et qu'il déborde de partout, alors que dans le français, il y a cette phrase qui avance en ligne droite devant elle avec la plus grande économie des moyens. Notre démarche mentale et notre phrase est plutôt oblique et elle avance en cercle. Donc, comment faire rentrer l'une dans l'autre ? Mais en même temps, et quelle merveille je le redis, avec une rigueur logique tellement exigeante, réussir une langue de soi, une langue de lumière, une langue tellement élégante et voluptueuse quand on lit Colette, et pourtant elle écrit bien dans un français logique.
Moi, je voudrais dire juste une petite chose. Pour avoir traduit une nouvelle d'Alicia dans un temps assez reculé, j'ai traduit un certain nombre d'auteurs de langue espagnole. Pour moi, c'est vraiment l'auteur le plus difficile à traduire, parce qu'elle a un rapport à la langue espagnole qui est un rapport... Elle parle de soi, je parlerai de caresse, je parlerai de sensualité, et que ce vocabulaire-là et cette manière de tourner autour d'un objet ou d'un corps, la langue française a beaucoup, beaucoup de mal à y arriver.
Tu as bien réussi.
Est-ce que vous avez l'impression que, au fur et à mesure, il y a une influence des deux langues l'une sur l'autre dans votre écriture en français ou dans votre écriture en espagnol ? Est-ce que le français influence l'espagnol ou inversement ?
Oui, le français n'influence pas l'espagnol, mais le français m'a appris à réfléchir et à ordonner ma pensée, ça c'est clair. Encore une fois, quand je suis arrivée, j'exposais un texte et on me posait une question très mystérieuse pour moi à l'époque. Et cette idée, d'où est-ce qu'elle sort ? Je ne sais pas, elle est apparue. Je ne peux pas expliquer d'où elle sort. Et je dois dire que presque 30 ans plus tard, je sais où chaque idée doit être posée. La France m'a appris à réfléchir.
Eduardo Berti, sur ces questions, vous n'écrivez pas en français ?
Non, non. Elle dit pas encore. Oui. En fait, oui, et si, pour le dire en français, si. Et j'écris deux choses en français. Dans mon dernier roman, j'ai inventé un poète. J'adore... un poète chilien qui a choisi comme alias, comme pseudonyme, merci. J'ai une lacune, j'allais raconter une chose, j'ai oublié. Bon. Dans mon dernier roman, voilà. Et j'ai inventé un poète qui s'appelle Rémi Doré, voilà, qui est censé être un poète, pas français, mais vénézuélien, qui a choisi ce pseudonyme et qui a choisi ce pseudonyme pour écrire en français. Un peu à la façon du poète chilien que j'allais citer, qui a choisi comme pseudonyme Jean Aymar, c'est-à-dire Jean Aymar. Et alors, j'ai dû écrire deux poèmes en français. Et ce sont mes deux textes en français qui sont dans le roman. Voilà, c'est la seule chose. Mais je crois que, justement, pour ce qu'Alicia a dit, je suis d'accord avec elle, je crois qu'écrire de la poésie, en plus, et n'étant pas poète aussi, et c'était plus facile pour moi, parce que je ne suis pas poète, et le rapport, c'est moins logique avec la langue, c'est plus libre. Alors, écrire de petits poèmes pour le livre, voilà. Mais écrire de la littérature, surtout avec le souci de précision qu'il y a dans le français, qui est très intéressant, parce que de ces soucis de précision, on peut même jouer ironiquement comme Bovary Pécuchet, non ? C'est extraordinaire. On peut mener ça à l'absurde, non ? Et je pense que, de ce point de vue, les instructions pour monter les escaliers de Cortázar, j'aime les lire en français. Je trouve qu'en français, ça sonne très bien, parce que c'est comme la perfection à l'extrême. Mais non, je ne sais pas si j'ai créé en français. Il y a une seule possibilité, peut-être, que je le fasse, parce que avant de mourir, mon père a laissé dans un tiroir caché 6 cahiers avec le début d'un roman qu'il n'a jamais fini d'écrire. Et la langue sentimentale de mon père était le français, mais il a écrit ça en espagnol. Et j'ai toujours voulu faire quelque chose, un jeu de miroir, et je me suis dit, peut-être pour jouer ça, je pourrais écrire ma part dans une autre langue, et plus naturellement pour correspondre à son amour avec la France et les Français, peut-être je pourrais jouer à écrire quelques, pas tout, mais quelques morceaux en français, mais c'est qu'une idée, sinon ça, et naturellement c'est jamais venu, non. L'espagnol, c'est ma patrie. Oui.
Alors sur cette question de la langue, c'est là où je voudrais bien sûr qu'on évoque Hector Biagiotti, qui lui a commencé à écrire en français avec sans la miséricorde du Christ, pardon, en 1985, même un peu avant, avec une nouvelle,
oui,
Michel.
Oui, tout à fait, la dernière nouvelle du recueil, L'amour n'est pas aimé, voilà. Il l'a écrite directement en français, et quand on l'interroge sur ce passage, il dit « Je ne trouvais plus les mots pour dire, tout était faux, tout sonnait faux ». Donc, à l'intérieur même d'un livre, donc une nouvelle en français, et à partir de là, ben, le reste en français. Alors je prends la parole, je la garde, mais je la passe à Alicia qui le connaît encore mieux que moi. Non, ce que je voudrais dire de sur Hector Biagiotti, c'est que je lui ai toujours dit, et ça a été un sujet de conversation avec nous bien des fois, qu'il écrivait en français, un français très classique. Il est dans une forme d'académisme d'écriture, belle écriture française, à la Paul Valéry, qui est son auteur modèle de référence. Mmh. Mais il a une musique qui est totalement espagnole. Et souvent, il m'a dit, pendant que nous dînions ou déjeunions ensemble, mais comment ma musique est espagnole ? Et je crois que sa musique est effectivement espagnole, alors que ses paroles sont en français. Et ça donne un très joli ensemble.
Alicia, qu'est-ce que...
Oui, la phrase de cette nouvelle de « L'amour n'est pas aimé », et dont il n'a pas trouvé de traduction, était « Aussi loin que je m'en souvienne ». La nouvelle commence comme ça, et il ne trouvait pas d'équivalent. Je pense que sa surprise, quand tu lui as dit que la musique était espagnole, vient du fait que lui, il n'a pas été élevé en espagnol, mais en dialecte piémontais, et qu'il n'a pas parlé l'espagnol qu'assez tard, parce que ses parents étaient, bon, ça tout le monde le sait, mais ses parents étaient des paysans de la Pampa Sèche, qui est une région épouvantable de la province de Córdoba, où il se sentait prisonnier de l'excès d'espace. C'est curieux qu'on puisse ressentir ça, mais il disait « L'absence de limites me faisait me sentir prisonnier ». Et il ne parlait pas l'espagnol jusqu'au moment où il est allé à l'école. Donc, il dit toujours que pour lui passer du piémontais au français a été relativement facile parce que le piémontais a les voyelles fermées. Et c'est là qu'il adore le français à cause des voyelles fermées, qui sont notre problème à nous, justement. Et cet exemple qu'il met toujours sur l'oiseau qui est un petit oiseau qui est dans son nid, dans l'intimité du nid, et que ce qu'il aime en français, c'est le côté intime, petit, alors que pájaro en espagnol, pour lui, c'est une violence, c'est un oiseau qui s'envole et qui est plus grand et plus violent.
Bon. Pero pajarito.
Ouais, voilà. Voilà, l'espagnol a les diminutifs et le français non. Mais d'après Hector, tout le français est un diminutif. C'est-à-dire qu'il a un côté intime qu'il a choisi profondément. Je ne pourrais jamais dire la même chose en ce qui me concerne. Hector a quitté sa patrie de l'espagnol au point que plusieurs fois, il m'a demandé de lui traduire des conférences qu'il doit donner à Buenos Aires. Il les écrit en français parce qu'il n'est même pas capable aujourd'hui d'écrire un article en espagnol ou de donner une conférence en espagnol. C'est-à-dire que c'est un choix. Il a choisi complètement la France. Il ne continue pas à chercher la maison de Bachelard. Il l'a trouvée.
Oui, mais en même temps, moi aussi, j'ai traduit un texte à lui, oui, parce qu'il avait besoin de... J'ai fait la traduction et après, on a travaillé ensemble. Peut-être il a abandonné l'espagnol, mais il a une précision incroyable avec l'espagnol. Mais non, mais ça, je crois que c'était incroyable la précision qu'il avait.
Il a dans un entretien au Nouvel Observateur en 2002, il a dit. Ça m'a surpris parce que j'ai vu ça en regardant ces jours derniers ce genre de document. Je ne conseille à personne de changer de langue. À mesure que les ans passent, écrire en français me paraît de plus en plus difficile. Donc ça m'a surpris. J'ai trouvé ça très violent, en fait. Vous aviez entendu ce type de témoignage, cette expression quand même d'une violence.
Oui, moi je l'avais écouté. Et une fois, on a parlé de ça. Et alors, moi, je racontais à Hector Bianciotti, un peu l'histoire de mon père, qu'il avait... Il avait commencé à parler l'espagnol qu'avant et quelques ans. Et que les dernières années, il avait commencé à perdre l'espagnol de nouveau. Il y avait deux mots qu'il commençait à perdre. Alors, peut-être c'est ça. Peut-être c'est que même si on arrive à l'académie et on arrive à des livres extraordinaires, comme Hector a fait, quand même, c'est une chose acquise. Je ne sais pas comment on dit ça.
Je pense que de toute façon, quand on prend... de l'âge, ça devient de plus en plus difficile d'écrire. C'est incroyable comme au début, on a une arrogance juvénile et tout nous semble un cadeau et qu'à mesure qu'on connaît le métier, ça devient beaucoup plus ardu en français, en espagnol ou n'importe.
Vous avez tous vécu un certain nombre d'années en France. Est-ce que vous vous sentez toujours aujourd'hui d'une certaine manière des exilés, José Muñoz?
Je suis parti comme un voyageur de mon pays il y a 33 années et je suis devenu un exilé quand l'Argentine est tombée dans la dictature de Videla et ses amis. Et j'avais vécu ça, mon transformation en exilé, Nous, avec Carlos, nous nous sommes réfugiés beaucoup pour résister toute cette année obscure de l'étoile argentin avec notre travail, que notre travail à ce moment, ça s'est développé plutôt dans les Zambias nord-américains, dans la ville de New York, que nous l'avons considéré comme un quartier de Buenos Aires, et aussi l'affection, l'attraction esthétique et aussi éthique pour certaines parts de la culture écrite, filmée des États-Unis. Nous avons passé avec notre caractère à l'Axiner, nous avons passé cette année de consolidation de l'exil. dall'Italie, dalla très beau Italie de cette année 70, mouvementée, tourmentée, mais pleine de vie. Et nous sommes arrivés pour être avoir notre diplôme d'Argentin, et ça veut dire que les diplômes qu'on te le donne à l'extérieur, pour être dans l'étranger, quand nous sommes arrivés à pouvoir sortir des matériaux écrits et dessinés autour de l'Argentine, de notre expérience, parce qu'on travaille à la main. Je travaille à la main et j'ai la illusion, comme dit le tango, j'ai subi toujours la illusion de vivre ma passion. C'est un tango qui s'appelle Âme de Bohémien, que j'aime beaucoup, c'est un délire verbal. Et la passion nous a conduit à pouvoir dessiner, écrire notre expérience argentine à la fin de la dictature. Et maintenant, je viens, je me promène aussi entre Paris et Buenos Aires avec la sensation d'avoir plus d'une maison. Comme en Buenos Aires élargi à Paris d'outre-mer, comme à lumière large qui couvre toutes mes deux villes. Et je suis, comme on dit, je considère que je ne suis pas, comme on dit, un exilé total désormais.
Alicia, qu'est-ce que vous diriez sur cette question ?
Oui, je partage le même sentiment maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de moments différents. Je suis partie en 78. Il y avait une dictature militaire en Argentine. J'ai travaillé dans un journal, La Opinion, qui avait été intervenu par les militaires. Et un jour, je suis arrivée au journal et il y avait autour du journal les tanks de l'armée. Bon, c'était un peu trop pour un groupe de journalistes. Et à ce moment-là, bon, j'ai demandé la permission de rentrer chez moi parce que j'ai senti que mes yeux gonflaient monstrueusement. Alors, les yeux dans la main, j'ai demandé au policier de la porte la permission de rentrer chez moi. Je me suis mise dans une baignoire d'eau tiède et je me suis dit, bon, ce pays est fini pour l'instant. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Où est-ce que je veux aller ? Et la réponse est surgie du fond de l'eau, à Paris, bien évidemment. Je ne pouvais absolument pas venir à Paris. Je n'avais aucune possibilité économique, mais je suis venue à Paris. Et bien sûr qu'au début, je me sentais exilée. Il faut s'entendre aussi sur le sens du mot. Je n'étais pas complètement une exilée politique. Je venais parce que la dictature ne me plaisait pas, parce que j'avais une fille de 13 ans. Je ne voulais pas qu'elle soit élevée dans cet annonceur, mais je n'étais pas une militante. Bon. Et je me sentais exilée au point qu'au début, je me souviens que je voyais, j'habitais à Meudon, et devant ma fenêtre, il y avait un jardin avec un grand sapin. Et je le regardais comme ça et je disais, oui, il est très beau ce sapin, mais il n'est pas à nous, c'est un sapin étranger. Et je me posais à contre-courant de ce que je voyais. Je ressentis toute la gamme des sentiments d'exclusion, de solitude, de sentir que je n'appartenais pas à ce pays-ci, mais à l'Argentine non plus. Et de nouveau, en mûrissant, il y a des bonnes choses qui se passent. Maintenant, je crois que j'ai en moi les deux pays et que je les ai dans la réalité. Je vais très souvent à Buenos Aires où je me sens très bien. Et une fois, j'ai même essayé de rester à Buenos Aires. Je suis restée 3 ans. Et, étrange expérience, j'étais entourée des Français à Buenos Aires. J'avais besoin des Français, j'avais besoin de parler en français. Et donc maintenant, je suis ici et je suis là-bas et je suis bien ou mal, mais je suis moi-même des deux côtés.
Et vous, Eduardo Berti ?
Mon cas, c'est très différent. Moi, je ne pourrais jamais dire que je suis un exilié. J'ai quitté l'Argentine parce que je voulais le faire et je savais que je pouvais retourner et je peux retourner quand je veux, quand je voulais. C'est très différent. J'ai beaucoup de respect pour cette précision des mots, je veux dire. Même pas je suis un émigré économique. Même pas. Parce que moi, de nouveau, je fais et je suis en train de faire cette expérience parce que je veux la faire. C'est pas le cas des gens qui, à partir de 2001-2002, après la crise économique en Argentine, ont pris la décision d'aller chercher des horizons économiques. Alors c'est un cas différent. Ça n'empêche que j'ai senti que quelque chose entre moi et l'Argentine s'est brisé au moment de la réélection de Menem. Quand la société argentine a dit oui pour la deuxième fois à cet homme, Moi, j'ai dit, ouf, encore. Mais ce n'était pas une réaction, c'est-à-dire prendre la décision de quitter le pays. J'étais en train de faire des choses très intéressantes du point de vue de mon travail, etc. Alors, bon, j'ai pris la décision. Ça a pris quelques temps à partir du moment de la réélection de Menem. Mais paradoxalement, l'absurdité économique de Menem, c'est-à-dire le fait que les pesos équivalaient à un dollar, m'a permis de venir. Ça, c'est le paradoxe aussi de la chose. Parce que moi, j'écrivais pour des médias de l'Argentine, et c'est qu'ils payaient, c'était normal. C'était pas que j'étais l'étoile du journalisme argentin, rien de ça. Ils payaient la même chose que tout le monde, qu'ils payaient à tout le monde là-bas. Quand je racontais à des gens en France ce qu'ils payaient, traduisaient en France, c'était encore l'époque des francs, ils me regardaient comme ça, mais c'était fou. Ça explique aussi pourquoi tout a fini comme a fini.
Et toute la cancellation de la classe ouvrière, toute la cancellation de l'industrie, ils l'ont fait chuter dans l'indignité, dans la misère, plusieurs générations d'Argentins. Et beaucoup de ces Argentins ont aussi voté à cette, verdugo, je ne sais pas.
Bourreau.
Alors ça, c'est un mystère, comme on dit, littéraire, plastique, éthique, psychoanalytique, tout que vous voulez. Pour ajouter, comment on les donne notre cœur et notre vote au type qui nous tuera. Peut-être que les habitants de l'Argentine, après les expériences d'interruption de la dignité, des coupes militaires, des manques de respect généralisés aussi dans les corps sociaux, avec l'exemple des patrons du pays quand même, et après les terreurs, comme on dit, intensives, scientifiques, des militaires, nous sommes devenus comme une espèce de troupeau atterri qui ont guidé à coupe de fouet au milieu de la pampa, parce que les patrons de l'Argentine ont voulu toujours, dans le fond de son désir, que les êtres humains qui ont appelé pour aller à travailler, qui ont appelé à notre pays pour les donner un moment de dignité et de calme, de les transformer aussi en troupeau d'exploités. Peut-être que le problème argentin, c'est qu'on dit, on ne fait pas la distinction entre être humain et vache et comme ça.
Oh, je peux...
Bien sûr, bien sûr.
Oui, j'aimerais répondre parce que j'étais en Argentine quand il y a eu la crise économique de 2002, quand le peso s'est dévalorisé énormément et quand tout d'un coup, grâce à Carlos Menem qui a vendu le pays, grâce au Fonds monétaire international qui nous a saigné, il n'y avait plus un dollar ni plus un peso. Et où la classe moyenne a dégringolé d'une manière dramatique. Ne parlons pas de ce phénomène de surgissement d'une pauvreté ahurissante qu'on ne connaissait pas chez nous, les cartoneros, 100 000 familles qui vont tous les soirs fouiller dans les poubelles des quartiers de Buenos Aires. Mais les gens se sont trompés deux fois avec Menem, d'accord, ils ne se sont pas trompés trois fois. Et le fait d'avoir voté Kirchner est tout de même, modestement, mais tout de même, montre qu'il y a eu un début de compréhension. Et je suis très fière des gens, de la réaction des gens, et très admiratif devant la réaction des gens pendant la crise économique. Les assemblées des quartiers, les usines que les patrons abandonnaient et qui étaient autogérées par les ouvriers, et les marchés du troc. Et ne parlons pas de l'explosion du cinéma argentin au moment même de la crise. Ces gens-là sont loin d'être des vaches, de se sentir des vaches. Je ne sais pas si j'aime beaucoup les élites argentines et même les intellectuels argentins, mais les gens du peuple, ils sont d'une créativité incroyable. Et je salue vraiment la créativité des cartonneros qui fouillent dans les poubelles parce qu'ils organisent, ils ont des hangars où ils interposent les cartons, ils ont même acheté des camions. Et tout cela montre que c'est un peuple capable de s'inventer la vie.
Pour vous, Eduardo Berti, est-ce que la question éventuellement du retour à Buenos Aires est une question qui est envisageable?
Le retour fait partie de ce voyage, toujours. Mmh. Il fait partie de ce voyage. Il y avait un bandoneoniste, ça on ne peut pas traduire, c'est un joueur de bandoneon, Troilo, qui disait, mais si siempre estoy volviendo, il disait, non, c'est toujours le retour. Troilo, dice muchacho que me fui del barrio, pero si siempre estoy volviendo.
Siempre estoy volviendo.
Non, mais ça c'est une cite ludique. Non, mais vraiment, le retour fait partie du voyage. Il n'a jamais cessé de faire partie de mon voyage. Mm-hmm. Ouais. Quand, c'est la question du million. Quand et comment, je ne sais pas.
Alors Paris, évidemment, et la France profitent beaucoup de ces allers-retours, de tout ce que aussi les artistes et les écrivains argentins peuvent apporter à la ville ou apporter à la France. Je me demandais, et j'aimerais bien savoir à vos yeux, si Paris est aujourd'hui toujours aussi attractif pour les Argentins. Et peut-être, question afférente, si la mondialisation, on y a fait un petit peu allusion là, avec les questions, on parlait du FMI, la mondialisation économique, mais la mondialisation c'est aussi une certaine forme d'uniformisation culturelle en marche. Est-ce qu'elle change la donne des rapports entre Paris et Buenos Aires?
Tu dois répondre.
Pour toi?
Non, pour toi.
Oui, évidemment, la mondialisation, c'est une homogénéisation des choses dans le monde. Quand on voit le Pizza Hut à Pékin, on veut pleurer. Et je me rappelle la première fois que je suis arrivé à Lisbonne et j'avais du mal à trouver un McDonald's. C'était pour moi curieux. Et quelques années plus tard, je suis allé de retour et j'ai vu presque immédiatement le McDonald's. McDonald's ou n'importe quoi, hein, pas forcément les symboles américains. Je veux dire, ça peut être même... il y a à Shanghai, il y a le printemps. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas seulement les symboles américains. C'est une, oui, mais bon, ça change un peu les données. Mais quand même, il y a des choses qui restent, des particularités. La possibilité de flâner dans les rues de Paris et de trouver des librairies, des bouquinistes avec des livres incroyables. Parce que comment on traduit la politique de traduction des maisons d'édition en France, même si sûrement. Vu de la France, il y a une nostalgie pour un âge d'or, parce que c'est toujours comme ça. Mais si on compare avec l'industrie, les maisons d'édition des espagnoles, c'est pas pareil, la vastité des choses qu'on trouve. Les cinémas, voir le cinéma à Paris, c'est incroyable. Les rétrospectives, les choses qu'on peut voir. Et bien sûr, il y a des choses que j'aime de Buenos Aires. On peut pas. Les premiers temps à Paris, j'essayais de trouver tout le temps des équivalences. Mmh. Et c'était nul, ça. Mais c'était peut-être mon mécanisme pour m'adapter. Alors j'habitais à Buenos Aires, j'habitais dans un quartier, Palermo, le quartier de l'enfance de Borges aussi, et pas loin d'un lieu très moche qui s'appelle Plaza Italia. Et en France, à Paris, j'habitais très, très près de Place d'Italie. Alors c'était très simple pour moi de faire des analogies. Pas loin de Place d'Italia, il y a El Arroyo Maldonado, non, la Bièvre. La Bièvre du 13e, à côté de Place d'Italie, la Bièvre de Père Goriot. Alors pour moi, tout le temps, j'ai fait ces parallélismes. Mais après, j'ai vu que ça ne conduisait à rien, que je devais vraiment avoir mon expérience avec Paris. Et alors il y a des choses de Buenos Aires aussi que, par exemple, j'adore les cafés de Paris. Vraiment, c'est une ville des cafés adorables, mais je préfère les cafés de Buenos Aires. Je préfère les tables carrées de Buenos Aires parce que les tables rondes, ça c'est... Moi, j'aime écrire dans les cafés.
C'est moins pratique.
C'est petit. Et je sens que toujours mon voisin est en train de lire ce que je suis en train d'écrire. À Buenos Aires, il y a beaucoup d'espace. Voilà, ce sont des choses très petites, mais ça c'est la vie. La vie est faite de toutes ces choses petites, non? Petites choses, oui.
Alicia, oui, je voulais que ce soit toi qui réponde parce que c'est un problème de génération. Voilà. Et je voudrais savoir, je te pose la question, je prends votre place pour la poser. Est-ce que Paris a le même attrait qu'avant, que pour ma génération, c'était une évidence. Nous avons été nourris de littérature et de cinéma français. Et est-ce que les nouvelles générations sont toujours attirées par Paris, et non seulement en Argentine, mais dans le monde entier? On sait très bien que la littérature française est de moins en moins traduite en dehors de la France. Ça, ce sont des évidences. Ouais. Donc, j'aimerais savoir si pour des gens de 20, 30 ans à Buenos Aires, Paris reste un phare.
Je ne peux pas répondre pour ma génération, mais j'ai l'impression que c'est moins unanime qu'avant. Ouais. Que ça reste, mais qu'il y a Londres, il y a New York, il y a beaucoup de villes. Dans les années 90, c'était New York. Quand j'ai dit à quelques gens que je partais à Paris, ils m'ont dit « Pourquoi pas New York ?»
Ou Barcelone.
Ou Barcelone aussi. Mais ça, du point de vue des généralisations qui pèsent dans une décision. Mais dans mon cas, il y avait les mythes partagés par tout le monde, mais aussi il y avait mon histoire personnelle. Alors ça, c'était plus complexe. Mais oui, c'est vrai, c'est moins unanime. En même temps aussi, la présence du français à l'Argentine, c'est pas la même qu'avant. Par exemple, elle est importante, mais à l'école, c'était anglais, français, non, avant. Oui. Et après, le Mercosur, le portugais, est très important aussi. C'est presque dans quelques écoles, c'est anglais, portugais. Le français vient peut-être après. Ce sont des raisons économiques, mais ce sont des choses qui bougent quand même. L'Alliance française était omniprésente en Argentine. Maintenant, elle est importante, mais elle n'est pas tellement omniprésente. Voilà.
José Muñoz, sur cette question.
On peut dire que cette mondialisation, la énième mondialisation dans laquelle délire d'expansion des différents intérêts économiques, aujourd'hui, ça c'est géant et on risque de prendre tous les déchets, comme on dit, toute la part B de culture populaire anglo-saxonne. Je pense qu'on doit résister à ça et de façon culturelle possible, parce que c'est, comme on dit, c'est en régression à une place qu'on ne veut pas occuper. Alors ici, on est, comme on dit, des petits combattants, comme on dit, dans le milieu de l'impression, de la culture, de l'activité culturelle. Je vais ajouter aussi à ce que j'avais dit avant et à ce qu'a dit Madame Dujovne-Ortiz, qu'en disant tout ça de moments critiques longs que la population argentine traverse, je me sens, comme on dit, objet de mon critique, pas seulement comme un critiqueur loin. Et je ne peux pas comprendre ces deux votations, mais quand même, je suis totalement d'accord avec elle quand elle parle de la capacité réactive de notre peuple, mélangé, qui a eu la possibilité de rêver des rêves géants dans lesquels nous sommes tombés par terre. Mais il y a des fragments, nous sommes des fragments d'un rêve argentin que nous sommes en train de nous remettre en pied dans une façon figurative et abstraite au même moment. Et j'espère que cette tentative de destruction des pays jeunes n'est pas défendue pour des pactes internationaux. Il y a tout un règlement, comme on dit, d'une aspiration financière et vulgaire dans le monde, qu'il y a différentes possibilités de résistance, mais la résistance à cette invasion anglo-saxon dans la côté plus vulgaire de son élan de domination, on est obligé pour la culture et pour la dignité à la combattre.
Et là, pour terminer, parce que là oui, le retourne très vite malheureusement, sur la communauté des Argentins de Paris, est-ce que vous la voyez évoluer? Si oui, comment est-ce qu'elle existe d'abord encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vivante? Ou bien finalement, il y a bien sûr beaucoup d'Argentins à Paris, mais il n'y a pas véritablement de communauté, entre guillemets, des Argentins de Paris aujourd'hui?
Non, je pense qu'il y a une communauté. Il y a une communauté composée d'artistes, de gens qui font des choses, parce que le rêve argentin par rapport à Paris, après Carlos Gardel, s'est triomphé à Paris. Donc, il y a cette communauté-là. Il y a très peu, finalement, de jeunes immigrés économiques. Les gens qui continuent à arriver à Paris viennent toujours à cause de ces rêves-là. Et nous composons une communauté chaleureuse. Nous avons besoin de nous voir. Nous nous rencontrons souvent. Et il y a tout le temps des activités argentines. À chaque jour de la semaine, il y a quelque chose dans le domaine du théâtre, du tango, du vernissage. Et nous avons besoin, personnellement, j'ai besoin de cette énergie-là.
Eduardo.
Oui, moi j'ajouterais aussi peut-être que une chose intéressante pour en étant ici, on fait beaucoup de rencontres aussi avec des latino-américaines. Oui. Ça, c'est très intéressant. Parce que, surtout pour les Argentins qui ont peut-être moins maintenant, un peu moins, parce qu'après la crise aussi, on a, comme on dit, bajado el copete. ça, on peut, comment on traduit ça? Baisser les tons, voilà, les prétentions. Mm-hmm. Mais c'est vrai que les Argentins, disons, quelques Argentins, quelques porteños surtout, ont toujours eu une tendance un peu de considérer l'Amérique latine comme bon, quelque chose qui nous entoure. Voilà. Mais c'est très intéressant de faire ces rencontres ici à Paris avec des gens. Bon, Paris, les multiculturalismes de Paris, c'est le cosmopolitisme de Paris, c'est très intéressant. Mais le pont de la langue nous permet d'avoir une complicité avec des Colombiens, des Cubains, tout ça. Et ça, c'est très intéressant. C'est très enrichissant. Ouais.
D'autant plus que chez nous, en Argentine, on ne se retrouve pas. J'ai rencontré ici des gens du Nicaragua, des Colombiens, etc. Je les ai connus à Paris, pas en Argentine.
Oui. Ah oui. Et pourquoi ça?
Parce qu'il n'y a pas de communication entre nous, et encore moins entre l'Argentine et le Brésil. Il n'y a pas assez de communication, je n'ai pas l'explication. Toujours est-il qu'ici, c'est aussi une capitale latino-américaine, tu as raison.
Et aussi parce que les maisons d'édition sont la plupart espagnoles, et alors les auteurs du Mexique, par exemple, sont publiés en Mexique et en Espagne, les auteurs d'Argentine et Argentine et en Espagne, si on arrive à Espagne, non? Mais le livre ne circule pas vraiment des auteurs latino-américains. C'est difficile parfois de trouver un auteur équatorien à Buenos Aires. C'est plus facile de trouver à Madrid. Pas seulement l'auteur, mais les livres.
Ça a été totalement différent dans les années 40 et 50, quand le Mexique et Buenos Aires ont été, comme on dit, les souteneurs éditoriaux de toutes les activités que tout est promené avec nos ancêtres. La génération antérieure s'est promenée avec notre Amérique. Il a changé beaucoup, alors on doit...
Imaginez que
c'est très différent.
Imaginez qu'aujourd'hui, un auteur comme Garcia Marquez publié pour la première fois en Argentine.
67, oui.
Qu'est-ce qu'il est arrivé aux maisons d'édition argentines alors?
Ils ont été achetés par des maisons d'édition espagnoles.
Que ça, c'est un peu inquiétant quand même.
Est-ce que je peux, juste avant de terminer, parce qu'on avait entamé, je ne sais pas si vous étiez là au moment où nous parlions de Julio Cortázar avec Michel Gazi, avec Jacques Lénard, et on se demandait, mais il n'y avait pas malheureusement d'Argentin, ils étaient prévus, mais ils n'ont pas pu venir, on se demandait quel pouvait être aujourd'hui, parce qu'on avait l'impression, nous disions qu'en France, on avait l'impression qu'il était... sinon oublié, en tous les cas moins lu, et qu'il faudrait s'appliquer aujourd'hui peut-être à le faire à nouveau connaître, etc., notamment aux nouvelles générations. Et on se demandait quelle pouvait être l'influence aujourd'hui de Cortázar sur les écrivains argentins, sur la nouvelle génération des écrivains argentins. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse à cette question?
Et à moitié, c'est-à-dire que je peux vous donner la réponse qui correspond à ma génération. Et on adorait Cortázar, on était tous des petits Cortázar, et la littérature fantastique était importante. En revanche, moi je n'appartiens pas à la génération qui, comme Eduardo Berti, s'est développée à l'ombre de Borges, parce que nous sommes arrivés à Borges plus tard. Borges était très mal vu par la gauche argentine. On a dû surmonter ces préjugés-là. Et donc, moi-même, je l'ai découvert tardivement. Je n'ai pas été formée par Borges dans ma jeunesse. Alors que le frère, comme disait tout à l'heure Michel Gazier, le frère, le grand frère qui était à Paris et qui nous représentait complètement, était Cortázar pour ma génération. Je ne suis pas la fille de Borges comme toi, tu es le petit-fils de Borges. Ce n'était pas mon époque.
Alors qu'est-ce qu'on pense de petit-fils de Borges ?
D'autant plus que chez Cortázar, il y a un jeunisme très fort, c'est-à-dire on sent qu'il est jeune. On sent qu'il est un peu John Lennon, Che Guevara et Cortázar. C'est quelque chose de jeunesse. Et Borges, par contre, c'est le vieux. Voilà. Oui. Mais il y a une chose aussi, ces dernières années, Cortázar, on trouve partout les livres Cortázar à Buenos Aires. Cortázar est partout, ça c'est clair. Mais quand même, ces derniers, il y a eu peut-être, surtout dans des... Pas massivement, hein, je parle à l'université... Non, dans des débats intellectuels, etc. Il y a eu peut-être une sensation de saturation de Cortázar aussi, et surtout, je crois qu'il y a eu la volonté de chercher au-delà de Cortázar des auteurs de la même époque qui faisaient des choses vraiment très intéressantes en même temps que Cortázar. Ça, c'est très argentin de faire pour récupérer. Manuel Puig, d'essayer de tuer Cortázar. Ça, je trouve que ce n'est pas nécessaire. La première chose, oui, la deuxième, c'est inutile, je sens. Surtout si c'est pas, si c'est un peu simpliste, je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a ces débats-là, parfois, des choses comme ça. Mais il est pressant, Cortázar, il est pressant. Et surtout, je sens aussi qu'il est, il est pressant. À Buenos Aires, il y a une énorme tradition d'ateliers d'écriture, de creative writing, comme on dit aux États-Unis. Et il est ici aussi. Oui. Et
en il français, est... on dit pareil, oui.
Voilà. Très bien. Je pensais que je parlais l'anglais. Et il est très présent là-bas aussi. Il est dans les grands ateliers d'écriture, je pense à Buenos Aires, à Liliana Hecker ou à Belardo Castillo, etc. Et Cortázar est présent. Il est un modèle pour les écrivains qui commencent à écrire, même si après, on essaye de ne pas être mimétique, bien sûr, mais c'est un chemin d'apprentissage aussi, très très fort. Oui.
Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, tous les quatre. Merci de votre attention. Vous savez qu'on va continuer un peu plus tard dans la soirée avec le tango, pour terminer ces trois très belles journées autour de l'Argentine. Donc il y a un petit moment, là, 1h15 peut-être pour manger un morceau, et on se retrouve à 21h autour du tango. Bonne soirée.